À l'été 2015, dans l'est de la France, à Bure, se tient un camp autogéré, anticapitaliste et anti-autoritaire, qui s'oppose au projet d'enfouissement des déchets radioactifs CIGEO. La préparation minutieuse de ce camp dure un an, et l'événement se passe sur l'ancienne gare de Luméville, terrain convoité par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Fleuron de l'industrie française, hautement protégé, les habitants et habitantes meusiennes s'opposent pourtant à ce projet de poubelle nucléaire depuis des décennies, sans être entendus. 1500 militants et militantes venus d'horizons divers se rassemblent à l'occasion de cet événement pour discuter, échanger et mener des actions décentralisées. Les buts sont multiples. Alerter sur le projet en cours, montrer que la région est loin d'être morte, donner aux personnes l'envie de s'installer sur le long terme, visibiliser les enjeux antinucléaires dans le contexte de la COP21, qui se tiendra peu de mois après, à Paris. Geste contre le nucléaire, l'organisation de ce camp est aussi une démonstration d'autogestion et d'organisation collective autonome à grande échelle. Louise et Joël font partie de cette dynamique, témoignent de leur vécu au sein de ce collectif et nous livrent dans les détails les étapes de leur lutte.
Ce terrain, il est truffé de ça, de toutes ces personnes qui, à un moment donné, se disent « je veux faire un geste contre le nucléaire ».
Les coulisses de la lutte est une série documentaire sonore qui remet la focale sur ce que les individus en lutte vivent au quotidien. Elles nous livrent leur trajectoire de politisation et mobilisation, nous parlent de stratégie, culture et tactique du quotidien. Elles retracent avec nous les étapes de leur lutte, dans le souci de garder une mémoire de leurs expériences et de tisser du commun entre tous ces combats. Épisode 3. Bure. Camp VMC contre le projet de poubelle nucléaire.
Ce lieu, moi, quand je l'ai rencontré, il appartenait déjà à des opposants au projet CIGEO. Et ce lieu était mis à disposition pour des événements de la lutte contre le CIGEO. Donc ici, on est sur une ancienne gare, une voie ferrée passait sur ce terrain. Et c'est une voie ferrée que l'ANDRA souhaite réactiver pour réaliser le projet CIGEO. Et elle aura besoin, à un moment donné, de ce terrain pour réaliser cette voie ferrée. Donc on voit tout de suite l'enjeu stratégique de ce terrain.
Alors bonjour, moi c'est Louise. La première fois que j'ai entendu parler de Bure, c'était à Notre-Dame-des-Landes. Et moi ça m'a surtout marqué parce que je viens de Lorraine. En fait, moi je viens d'ici et j'avais jamais entendu parler de Bure. Voilà, ça m'a donné envie de passer à Bure une première fois. Sachant que moi-même, j'étais pas forcément... dans les luttes antinucléaires à ce moment-là, et que d'une manière générale, je ne viens pas des luttes écolo. Moi, je viens plutôt au départ politiquement, mes premiers éveils, c'est plus par rapport à la question de l'injustice sociale qui m'a amenée à faire des choses dans la rue, dans des squats, avec des collectifs. Je m'en foutais un peu de l'écologie, clairement. Mais ce qui a changé mon rapport, c'est de... à un moment donné, me rendre compte que l'autonomie, elle passe par la question de la réappropriation des terres. On ne peut pas penser la justice sociale sans penser une sortie du système, donc l'autonomie. Donc forcément, la question écologique devient centrale. C'est dans ce sens-là, finalement, que je suis arrivée à lutter contre le nucléaire, les aéroports, etc., dans cette idée de réappropriation de nos territoires.
Moi, je sais que la première fois que je suis arrivé, bah, déjà, tu te dis, waouh, il est super ce terrain, parce qu'il est entouré d'arbres, il y a une nature florissante. Et quand on est arrivé, c'était un peu. Il restait les restes d'une vie antérieure, donc le festival punk qui avait lieu chaque année ici, justement par ces fameux propriétaires opposants. Donc il y avait des carcasses incroyables avec des camions tranchés en deux, avec des anciens trucs de manège ou des trucs comme ça. On se disait, mais il y a dû y avoir des trucs incroyables ici. Et c'était envahi par les herbes, donc il y avait un truc post-apocalyptique assez drôle dans ces vestiges. Ça suscitait tout de suite un imaginaire et se projeter dans l'idée de quelque chose là. Bon, déjà, on se dit, waouh, il y a du boulot. Mais on se dit aussi, mais c'est superbe, en fait.
Bonjour, moi, c'est Joël. C'est un peu similaire, en fait. Moi aussi, j'ai entendu parler de Bure la première fois à Notre-Dame-des-Landes. Et pour moi, je me suis dit, tiens, il y a une zone en lutte que je connais pas. Comme à l'époque, on découvrait un peu les zones en lutte les unes après les autres. Tiens, il y a Roibon, il y a Sivin. Et puis, il y avait Bure. Et Bure, j'avais jamais entendu parler. Moi, c'est pareil, je viens vraiment des luttes sociales, en fait. Pendant des années, j'ai milité sur les questions d'immigration, dans des collectifs qui étaient urbains, citadins, lutter contre la vidéosurveillance, lutter contre les dispositifs sécuritaires, les dérives sécuritaires du système. Les violences systémiques en ville. Ma première familiarité avec des histoires de campements, c'est les campements no border, puisque les campements, on les fait pas en ville parce qu'il n'y a pas de place dans les villes. Et surtout, les campements no border, ils se faisaient sur des points frontières. Les points frontières sont souvent des endroits relativement isolés. Et ça a été ma première familiarité avec qu'est-ce que c'est de faire des campements autogérés hors des villes, en fait.
Du coup, la première fois, on était assis là dans l'herbe, juste à une poignée, à regarder ce champ et se dire « ça sera là ». Ce sera là qu'on va faire un campement dans un an, à cet endroit-là. Et donc, on essayait un peu de visualiser ça. Et on ne connaissait pas ni la région, ni les gens autour pour une partie d'entre nous. Il y avait des gens qui étaient déjà venus. Mais pour un certain nombre, on débarquait de plein d'endroits, de l'ouest, de Paris, du nord. Et on découvrait cet endroit en se disant « bon, alors qu'est-ce qu'on va y faire ?»
Le campement VMC, il s'inscrit dans l'histoire de cette lutte, donc la lutte contre le projet de poubelle nucléaire, à un moment un peu stratégique. L'enjeu à Bure, il est de taille. L'industrie nucléaire, elle a réussi à s'imposer un peu à tout le monde, même si elle a été extrêmement contestée dans sa mise en place. Les gens se sont battus bec et ongles contre l'installation du nucléaire civil. Souvent, on l'oublie, mais finalement, le nucléaire rentre, malgré sa dangerosité, malgré Fukushima, malgré Tchernobyl, comme quelque chose presque qui va de soi. Mais par contre, ce que cette industrie n'arrive pas encore à camoufler, c'est ses déchets. C'est une industrie qui produit énormément de déchets, extrêmement dangereux pour le vivant, et ce sont des déchets à vie longue. Et elle cherche à entretenir l'imaginaire d'une solution, donc c'est complètement fou, hein. Donc c'est ça, hein, le projet de poubelle nucléaire qu'ils veulent faire à Bure, c'est à 500 mètres sous terre, faire 300 km de galerie. Donc le petit déchet, on lui ferait un petit contenant, etc. Ensuite, on l'enverrait sous terre, et puis tout va bien se passer. Voilà, c'est ça le plan. Depuis 30 ans, une lutte s'est inscrite sur ce territoire. Tout de suite, ils ont compris que ça n'allait pas être possible, en fait, cette mascarade. Mais même si tous les gens du coin étaient dans la rue, comme la Meuse, c'est un territoire qui est très peu peuplé, ça faisait peu de monde. Et finalement, c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire le projet Cigéo en Meuse. Parce que même si tous les gens étaient dans la rue, ça allait faire peu de bruit. Donc l'objectif par rapport à la lutte de Bure, c'était vraiment de faire connaître Bure, de faire en sorte que des gens viennent et puissent ensuite revenir. Par exemple, moi, si je prends mon cas, ce qui m'intéressait dans cette aventure, dans cette histoire, c'est que j'étais déjà allée à Bure. J'avais bien compris ce que tout le monde m'avait dit quand j'y étais allée. Nous, ce dont on a besoin, c'est de plus de monde. Je me suis dit, que faire pour Bure et participer à ce campement? C'est une vaste entreprise de communication. Voilà, c'était faire de la publicité pour que les gens connaissent et viennent, comme je dis toujours, que les gens trouvent la route. Puis après, peu importe que le campement soit intéressant ou pas, ils auront envie de revenir, c'est sûr. Alors pour comprendre VMC, il faut voir que c'est une idée qui s'est située au carrefour de trois désirs. D'un côté, il y avait la lutte anti-nuque qui avait connu un renouveau avec la lutte contre la THT. Il y avait l'envie de poser un moment fort par rapport au nucléaire. Et c'est évident que Bure allait être un enjeu, Par ailleurs, donc nous sommes en 2014 et tout le monde voit venir la COP21 à grands pas. Et beaucoup de personnes réfléchissent à comment se positionner par rapport à la COP21. Donc plutôt que de refaire un contre-sommet, s'il y avait un moment bien en amont pour que les différents collectifs intéressés puissent réfléchir à quelque chose à faire au moment de la COP21. Le troisième désir, c'était une envie que les gens prennent le temps de la réflexion et de se retrouver. À ce moment-là, on se disait qu'avec toutes ces aventures des ZAD, il se passait quelque chose sur lequel on manquait de recul, l'actualité était très dense. Alors ces trois désirs se sont retrouvés, et avec l'envie d'organiser un campement autogéré qui soit à la fois un geste contre le nucléaire, en mettant l'accent sur Bure, avec déjà cette idée que la lutte était un tournant, puisque à Bure, c'est le moment de mise aux normes du projet pour qu'il puisse se réaliser. Donc vraiment l'envie d'un événement ambitieux, que tout le monde vienne et qu'on prenne vraiment le temps de discuter ensemble.
C'était pertinent et intéressant de faire aussi de ce campement un moment où il y a un moment internationaliste. On ne fait pas que venir tous nos amis, mais un peu d'autres réseaux, en fait. Ça ouvre aussi vers l'international de nouveau, parce que Bure a été une lutte aussi, début des années 2000, qui a été une lutte internationale par le fait que transfrontalière, en tout cas avec l'Allemagne, parce que Bure est un projet à ampleur nationale et potentiellement peut-être européen, avec la possibilité que des déchets viennent d'ailleurs aussi, et que peu à peu, ça s'est tari, et les Allemands sont moins venus à Bure. Mais là, il y avait un truc intéressant aussi, de nouveau, à convoquer ce moment international à Bure.
En fait, le campement, c'est une idée qui est apparu presque un an avant le dit campement. Et au départ, les premières réunions, elles se sont même pas passées à Bure. Et ça tient beaucoup à comment ce campement il s'est constitué. Il s'est constitué sur l'envie, le désir de plusieurs collectifs. Mais ce n'étaient pas des collectifs forcément qui vivaient dans l'Est. Et c'est qu'à partir de décembre, je dirais, qu'on a commencé à travailler depuis Bure.
C'est un réseau qui s'est maillé au fur et à mesure des années entre différents lieux en lutte. Donc on est des collectifs de gens, avant tout, qui sont des amis pour une partie des gens et qui vont d'un lieu à l'autre, qui se retrouvent et qui se sont retrouvés beaucoup autour de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, qui a créé un réseau immense de gens en connexion. Et donc on se retrouve naturellement à Notre-Dame-des-Landes à se poser la question à plusieurs collectifs de qu'est-ce qu'on fait l'an prochain à l'occasion de la COP21, mais on a décidé que non, on voulait créer notre moment. En fait, notre temporalité n'est pas celle qu'impose un sommet comme ça, qui n'est pas propice à la rencontre parce qu'il va être hyper policé, parce que c'est Paris et que beaucoup de gens n'ont pas envie d'organiser des trucs dans Paris. Ça leur paraît indépassable et logistiquement très compliqué. Donc il y a vraiment un truc où on choisit notre endroit et aussi on le projette dans un lieu de lutte, parce que c'est cohérent de soutenir un lieu de lutte et une lutte, en fait. Et Bure s'impose un peu tout seul, en fait. Et nous, ça nous paraît une évidence à ce moment-là, que c'est là qu'il faut le faire, en fait, surtout s'il y a un terrain, ce qu'on sait déjà à ce moment-là. Mais en tout cas, une chose, c'était déjà clair en septembre 2014, c'est qu'on allait sur un format de campement, en fait, et que c'était, a priori, durant l'été suivant. Et après, la mise en œuvre, on sait que ça va être lourd, on sait que c'est des processus compliqués, mais en tout cas, on ne doute pas du fait qu'on va assembler tout ce truc-là de briquet de broc avec des gens de partout, en fait. C'est un peu la somme de nos expériences de lutte et de vie sur des années, en fait. C'est là où on arrive à un point où on se dit, on a vécu suffisamment de choses, on a acquis suffisamment de savoir et savoir-faire pour mettre ça ensemble et que ça marche.
Donc on le voit tout de suite en termes de logistique, d'organisation, ça demande des moments de réunion pour se retrouver et penser les questions politiques, logistiques. Alors au départ, le campement VMC s'est organisé en cercle fermé, je dirais bien 6 mois. Et les personnes étaient cooptées. Donc c'est des personnes qui avaient déjà effectivement l'habitude de militer ensemble. Mais les différents collectifs, pour autant, ne se connaissaient pas tous aussi bien. Il y a eu quand même des rencontres, il y avait un imaginaire commun.
Il y avait vraiment un accord de principe de « on n'en parle absolument pas ».
C'est-à-dire chacun et chacune d'entre nous devait garder le secret absolu auprès de ses amis, même de son collectif affinitaire, sauf cooptation, pour que ce truc ne soit absolument pas connu, qu'on ne nous voit pas arriver. Il faut que ça reste secret pendant toute la période jusqu'à ce qu'on communique dessus. Et une fois que la communication a démarré, d'un coup on a lancé les infotours, on a lancé les affiches, les communications en ligne et tout ça, le blog.
Avec un film, il s'appelait « Poubelle la vie ». C'était notre outil d'infotour principal. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, personne ne savait c'était quoi Bure. Alors concrètement, ça donne des réunions tous les mois. Bien sûr, des commissions de travail, donc la commission logistique avec des sous-commissions, la commission eau, la commission ELEC, la commission bouffe, appro, cantine, la commission programme. Puis petit à petit, les réunions vont toutes se faire en Meuse parce qu'il va s'agir de commencer à préparer le terrain, mais dans tous les sens du terme. C'est l'aménagement sur place, mais ça va être aussi rencontrer les associations locales, démystifier aussi qu'est-ce que va être ce campement auprès peut-être des habitants, des habitantes des villages, enfin faire du lien, sachant qu'il y a au départ un peu un déséquilibre avec un campement qui est essentiellement porté par des collectifs extérieurs à la région. Donc il y a tout un réseau humain aussi à rencontrer.
Alors, et ben là, on arrive sur... Là, on est vraiment à l'entrée. C'est le bord de la route. Et juste là où on se trouve, au bord de la route, on avait décidé d'implanter l'accueil et le point d'info presse, en fait. Donc c'était l'endroit où les personnes un peu curieuses des environs pouvaient s'arrêter et demander « mais il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» C'est beaucoup là qu'on va vraiment discuter avec la population et pas du tout sur le campement où la population ne vient pas. Parce que c'est des espaces qui, oui, se sentent pas très intimidés de rentrer. Et puis c'est retranché entre les arbres, c'est pas facile d'accès en fait.
Ça c'est quelque chose qu'on a vraiment posé dans la feuille de route, très tôt, de dire il faut que des mois et des mois en avance, on soit identifié, que quand on arrive là et quand ça sera le campement, on sera déjà là depuis un moment et on fera partie du décor en fait quelque part. Et ça casse un peu ce truc de ils arrivent, ils vont envahir le territoire, c'est les zadistes étrangers, enfin ce qu'il y a généralement dans la presse locale qui est un peu l'épouvantail terrible. On va vraiment passer beaucoup de temps dans les villages, à rencontrer les gens, à faire des tours en vélo, parler aux gens au bord de la route, faire du porte-à-porte, vraiment en étant avec les gens tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé avec pas mal d'agriculteurs ou d'habitants du coin qui ont aussi pu donner des coups de main ou apporter du soutien, qui sont venus sur les chantiers en amont. Dans les 3 mois qui ont précédé le campement, on a fait à chaque fois une semaine de chantier, donc vraiment... C'était d'une part permettre à des gens de nous rejoindre sur la dernière phase et élargir un peu le groupe, parce qu'on avait un groupe assez solide, etc. Mais on savait que sur la fin, on allait avoir besoin de coups de main. Et on avait un journal mural qu'on affichait dans les villages pour expliquer, on fait ça, on en est là, c'est quoi les enjeux de la lutte, pourquoi on arrive. On avait un journal de chantier qui était inclus dans le journal mural qui disait, on a fait ça, c'est super, on a restauré ça, n'hésitez pas à passer. Et il y avait les repas comme des mirabelles, pas des poubelles. C'était un peu les moments conviviaux qu'on ménageait pour rendre accessible la lutte aux gens du coin qui voulaient passer un petit coup nous voir.
On s'est dit ça va être compliqué pour les gens du coin de venir sur le campement car c'était un campement anti-autoritaire, anti-capitaliste, donc avec beaucoup de codes militants et un entre-soi finalement. Donc c'est pas simple d'arriver comme ça dans ce bazar et par contre on avait vraiment envie qu'il y ait des rencontres possibles pour les habitantes habitants des villages autour. Ça a donné donc une des réussites de ce campement, l'envie de faire une grande discussion entre des paysans de Bure et des paysans de Notre-Dame-des-Landes sur les questions foncières et les questions de captation des terres dans le cadre de grands projets inutiles imposés. Et ça a lancé une dynamique autour des terres agricoles. Enfin, de là est né un collectif qui s'appelait Reprendre les terres, puis Terre de Bure. Et c'est un collectif qui existe toujours et qui travaille sur les questions foncières, qui s'est retrouvé à mener des mobilisations ensuite sur la question de l'avenir des terres agricoles et qui est toujours actif. Alors, il y a aussi la rencontre avec les militants historiques. L'accueil était assez enthousiaste. Les personnes se sont demandé comment elles pouvaient contribuer à ce que le campement se passe au mieux compte tenu du fait qu'on se bat contre le lobby électronucléaire, la répression peut être coriace. Parce que nous, on avait un peu cette peur. On se disait, si ça se trouve, c'est annoncé ce campement anti-autoritaire, anti-capitaliste, etc. Mais peut-être qu'il va y avoir des gendarmes partout, que les gens ils vont jamais pouvoir nous rejoindre. Alors, ce qu'ont imaginé quelques personnes, c'est de faire des checkpoints autour du campement, là où il y a des grands carrefours, des routes, pour s'assurer que les personnes qui allaient venir en Meuse allaient pouvoir arriver au campement.
Parce que ce campement-là, c'était aussi c'est un des objectifs quelque part aussi qui est sous-jacent, c'est de dire on crée des espaces pour que beaucoup de monde se rende compte que l'autogestion c'est possible en acte, en faisant l'électricité ensemble, l'eau ensemble, la cuisine ensemble, le pain. Il y a des gens qui ont appris à faire du pain avec la boulangerie mobile. C'est la propagande par le faire, hein. c'est faire ensemble pour faire comprendre politiquement que c'est possible. Et en plus, dans des dimensions aussi grandes, c'est-à-dire avec 1500 personnes, ça fait comprendre que c'est possible à ces échelles-là en fait. Et avec des moyens restreints de récupération, etc. Et c'est un imaginaire très puissant qui voyage après avec les gens, c'est qu'en l'ayant fait, il n'y a qu'en l'ayant fait qu'on sait que c'est possible de le faire, en fait.
On avait aussi deux éoliennes tout là-bas au fond, sur la crête, il y avait des éoliennes qui, elles, amenaient vraiment de l'électricité avec des panneaux solaires qu'on avait implantés sur un échafaudage le long du bâtiment. Donc tout ça, c'était toutes nos installations un peu logistiques sur ce côté-là. On avait les douches et les toilettes qui étaient implantées entre les quais, avec un système où on s'est servi des quais en hauteur pour, comme château d'eau, puisque la descente envoyait l'eau assez loin, donc il suffisait de mettre les tonnes à eau sur le hors-bord et ça envoyait l'eau sur une centaine de mètres.
Et il y avait des éléments du campement qui sont arrivés en kit, dont certains inespérés, parce que comme c'était un campement autogéré, il y avait l'idée que les collectifs se saisissent de ce campement et organise des choses. Et entre autres, on a un collectif d'Isère qui est arrivé avec une bibliothèque dans une caravane, qui ont posé un tipi. Et voilà, ils avaient emmené tout ça avec LE. C'était vraiment une super contribution.
Par exemple, les chapiteaux, c'est aussi des collectifs de circassiens qui sont plus anciens, qui sont un peu les amis aussi de ceux qui possèdent le terrain ici, et qui depuis longtemps, c'est une forme de contribution à la lutte de mettre à disposition aussi leurs infrastructures de cirque, quoi.
On a la caisse de camp qui s'est transmise de camp en camp au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'il y avait une caisse qui se transitait depuis des années d'un campement à l'autre, qui soutenait le campement suivant. Tout le réseau des camps Action Climat aussi, qui amenait aussi des questions matérielles. Enfin, on a bénéficié quand même d'apports très, très spécifiques sur le matériel et tout ça, qui font autant de dépenses en moins. Mais le prix libre a extrêmement bien fonctionné. Et donc, du coup, on en est ressorti avec aussi de l'argent après pour pouvoir faire le bouquin Rage de camp, qui était aussi un manuel qui a permis d'expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. Il a été autofinancé par cet argent-là, notamment.
Et puis de rendre la caisse de camp avec plus d'argent que ce que nous, on avait trouvé. Oui. Donc, on n'en était pas peu fiers. Et au cas où, une répression s'abat, ça peut arriver. On avait sanctuarisé aussi une partie de l'argent qui restait pour cette possibilité-là.
La répression judiciaire, pour nous, elle était un peu lointaine, c'était arnaque. Enfin, on n'avait pas ce spectre de la judiciarisation de la lutte qu'on a aujourd'hui, en fait, les assauts de malfaiteurs. Pour nous, c'était juste pas imaginable, en fait. Avec l'état d'urgence, etc., c'est là qu'on a commencé à se poser vraiment ces questions-là. Mais à ce moment-là, pour nous, c'était surtout esquiver une confrontation très brutale avec la police, en fait. C'est-à-dire de pas créer, en tout cas, le point de fixation, de crispation. On était surtout traumatisés, en fait, par Notre-Dame-des-Landes, chez Fresnes, par des confrontations très brutales avec des amis blessés, mutilés. Et donc, on craignait surtout de créer ces espèces de confrontations brutales qui blesseraient des gens et mutileraient des gens. Et c'était ça pour nous, la répression.
Et utiliser le MOSAD dans d'autres territoires en lutte, ça a permis de faire une impulsion. Parce qu'il y a quelque chose de fort qui s'était construit à Notre-Dame. Et il y a eu un moment où réutiliser ce mot était utile pour les imaginaires. Mais bon, entre-temps, il y a eu les contre-feux médiatiques et répressifs. Et très vite, la tendance s'est inversée. C'était immédiatement avoir les pouvoirs publics contre soi. Mais globalement, l'outil de l'occupation, il peut être pertinent si on a un petit territoire circonscrit qui est menacé. Mais c'est que le projet CIGEO concerne toute la Meuse. En fait, s'il y avait une zone à défendre, ce serait trois départements. Il nous faut, 10 millions de personnes. C'est pas possible. Et par rapport à la répression, je crois quand même qu'on n'était pas dupes, en tout cas, du travail de fichage qui est toujours omniprésent dans la lutte anti-nucléaire. Le fait qu'il n'y ait pas eu de répression pendant ce campement, pour moi, ne tient absolument pas à nous. C'est juste une stratégie, eux, qu'ils ont eue à ce moment-là. À l'époque, personne n'entendait parler de la lutte de Bure. Et pour eux, une répression aurait signifié une médiatisation de la lutte de Bure. Je dirais que le tournant en termes de répression sur le territoire de Bure, c'est au moment, donc une année ensuite, où une forêt est occupée pour empêcher des travaux qui étaient en train de se faire de manière complètement illégale d'ailleurs. Il y a eu une expulsion. Du coup, la médiatisation a été opérante. À partir de là, ils n'avaient plus de raison de ne pas réprimer, enfin de ne pas utiliser cet outil-là pour nous contrer.
Nous, notre action principale, c'est de faire un campement. Et celle-là, elle est déjà belle parce qu'elle se fait rencontrer les gens et c'est une action en soi déjà de faire ça.
Du coup, là, on est vraiment au centre de la vie du campement. Donc là, il faut imaginer tous les espaces cantines tout autour. Là. Tout ça, c'était une place un peu pour manger, une place de vie où les gens se croisaient. C'est vraiment l'espace de vie principal du campement. Après, on avait plus l'espace de débat sur l'espèce de grande ouverture du terrain. Là, sur le centre, il est un peu plus large et plus plat. Donc on avait mis deux grands chapiteaux.
C'est énorme tout ce qu'on avait sur plein de questions, hein, sur les luttes paysannes, les luttes migratoires, les luttes internationales, le mouvement climat, il y avait vraiment des trucs toutes les heures, tout le temps. Et avec le cinéma qui tournait H24, donc c'était un barnum fermé dans l'obscurité où il y a des films en continu qui étaient projetés. Et les gens ajoutaient des ateliers tout le temps en fait, parce qu'il y avait des barnums libres un peu tout autour qui permettaient une autre programmation parallèle.
Il y avait énormément de monde. Entre celles qui se sont complètement investies dans l'autogestion du campement, celles qui sont parties faire des actions avec les associations du coin, celles qui étaient aux discussions, aux réunions, enfin, il y a eu vraiment plusieurs vies du campement en parallèle.
Et après, sur les actions, il y a eu des trucs assez chouettes, spontanés, il y en a eu plein. Il y en a qui mettaient la pression, d'autres moins. Ça n'a pas tous le même retour en termes de répression. Mais il y avait par exemple un groupe de cyclistes qui allait accrocher des banderoles dans des villages. Il y a eu des gens qui sont allés faire un sitting devant l'ANDRA.
L'ANDRA, c'est l'Agence nationale pour le traitement des déchets radioactifs. Donc, c'est l'agence d'État qui est chargée de mettre en œuvre des solutions pour la gestion des déchets nucléaires.
Enfin, c'était dingue, en fait, ils avaient installé des chiottes sèches contre les grilles de l'ANDRA, et en fait, plein de trucs qui étaient vraiment à mourir de rire, parce qu'il y avait des peace and love accrochés sur l'ANDRA et tout, on se disait, non mais c'est fou, c'est dingue. Mais il y a eu l'action de clôture du campement, c'est celle-là qui a eu le plus de retentissement auprès des gens locaux, parce que pour eux, c'était la plus symbolique. En une de toute la presse régionale, il y avait un ingénieur de l'ANDRA a vu sa maison repeinte en vert. Et en fait, ce gars, il est détesté, mais détesté, parce que c'est le gars qui exproprie les terres pour l'ANDRA. Et donc, il y a des gens qui nous ont dit localement, mais on a sabré le champagne en voyant la une. Donc ça, c'était vraiment assez jouissif, ce retour-là.
Moi, je voulais parler aussi d'une autre action qui s'était passée à Voivacon, où il y avait une simulation d'un accident nucléaire. C'est des associations historiques de la lutte qui avaient organisé, pendant le temps du campement, cette mobilisation. Forcément, c'est le genre d'action qui interpelle toutes les personnes qui voient. Donc c'est simple, hein, c'est mettre le costume blanc des travailleurs du nucléaire et c'est s'allonger un peu partout dans la rue. Plus il y a de monde allongé, et plus ça marque visuellement les esprits, etc. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui ont participé à cette action, c'est beaucoup des personnes qui ensuite sont restées. Enfin, c'était les personnes qui finalement avaient envie de faire des choses avec les historiques, etc. Enfin, voilà.
Et puis après, il y avait un petit journal, La Tome qui pue, qui essayait de reprendre un peu les histoires du campement, l'histoire de tous les jours, et plein de contenus comme ça qui émergeaient, d'affiches, de créations, et qui étaient mis en ligne au fur et à mesure sur le site du campement, pour que vraiment les gens à l'extérieur, ils avaient un fil d'infos. Et donc du coup, bah, il y avait un truc de dire aux gens qui venaient, qui disaient « moi je fais de la photo, j'aimerais bien prendre des photos, moi je fais de la radio, j'aimerais bien enregistrer », on leur disait bah, « vous devez participer aux réunions automédias qui ont lieu le matin et on va ensemble voir comment on fabrique ce contenu ». Nous, on avait fait le choix de ne pas faire d'assemblée en fait. Sur toute la première moitié du camp, il n'y a pas eu d'assemblée. Parce qu'on voulait pas créer cet espace d'assemblée qui nous paraissait pas équilibré, qui risquait de trop créer justement ces espaces de friction ou de prise de pouvoir possible. Et les gens ont fini par venir nous chercher un peu en off en disant « Mais c'est qui les organisateurs? Quand est-ce que vous posez une assemblée? Là, il y a un problème. » Et on disait « Mais en fait, on n'est pas des organisateurs. En fait, nous, on s'est dilué, on fait partie du tout qui est ce campement maintenant. Et ce campement, s'il décide de faire une assemblée, il y aura une assemblée. »
Donc là, on arrive sur une zone un peu hauteur avec un quai très haut. Donc ça, c'était un peu une problématique pour nous qu'on avait identifié, de se dire comment se fait la circulation sur un terrain qui est coupé par des parois verticales. Du coup, par contre, ça nous a... Par exemple, on a... Bah là, par exemple, là où il y avait le camping non mixte sur cette plateforme, ce qui était en soi, c'était un peu venu de l'idée que bah, s'il y avait une partie un peu isolée, ça permettait pas facilement... Enfin, ça laissait un certain retrait en hauteur, ça permettait d'isoler camping. Et c'était une idée un peu pourrie parce que l'espace teuf était là, juste derrière. Donc tous les teufeurs traversaient le long du camping non mixte. Donc c'était complètement naze comme idée. Mais voilà, c'est des choses comme ça qu'on découvre après.
Plusieurs personnes ont constaté des propos ou des regards ou des gestes sexistes durant le campement. Il y a eu une discussion en mixité choisie qui s'est mise en place, suite à quoi il y a eu un mur d'expression pour relever toutes les attitudes sexistes qu'on pouvait soit subir, soit observer.
Il y a eu des exclusions dans la semaine, il faut le dire aussi. Il y a des gens qu'on a raccompagnés gentiment mais fermement en disant « bon, maintenant, va falloir partir parce que là, tu as été violente physiquement avec des gens. » Par exemple, les chiens avec lesquels tu es ont quand même mordu plusieurs personnes et tu ne fais rien. Et en fait, ça commence à être problématique. Et nous, on est venu te le dire. Maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut que tu t'en ailles avec.
Sachant qu'on avait quand même une base arrière, c'est que donc à Bure, il y a la magnifique maison de résistance à la poubelle nucléaire. Donc, c'est une maison qui a été achetée une quinzaine d'années par différents groupes d'opposants, associatifs entre autres, et qui est un peu le lieu par où arriver à Bure. C'est vraiment un cœur de lutte. Et donc, pendant ce campement qui se déroulait donc à une dizaine de kilomètres de Bure, cette maison, entre autres, a servi de zone tampon. Donc, quand des personnes, c'était un peu compliqué avec elles sur le campement, il leur était proposé gentiment d'aller donc dans cette maison. Les personnes qui s'occupaient de l'accueil de cette maison, qui finalement, au fur et à mesure des journées, se sont retrouvées avec toutes les situations un peu complexes qui se retrouvaient pendant le campement. Enfin, c'est bien de dire hein, que voilà, il y a aussi des moments houleux, des moments durs. Il y a eu des choses très belles aussi. Par exemple, en clôture du camp, il y a eu une immense assemblée sur qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant pour Bure. Incroyable, avec des groupes, des boîtes à idées. Enfin, il y avait différents axes de travail sur que faire de l'extérieur, que faire sur ce territoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a énormément drainé de monde vers Bure. Il y a plein de personnes que j'ai rencontrées l'année suivante, ou 2 ans après, ou 3 ans après, qui sont venues à Bure et qui m'ont dit bah, « ma première fois, c'était VMC ». VMC, ça a vraiment été une super entreprise de communication autour de la lutte de Bure. Ça a donné plein de personnes qui sont revenues tout au long de l'année pour un chantier, une construction, se rendre compte comment le territoire évoluait, sachant que plusieurs mobilisations étaient organisées pour l'avenir des terres agricoles. L'Andra commençait à retirer des terres, des cultures à ce moment-là, ce qui fait que lorsque l'Andra commence de manière complètement illégale des travaux dans une forêt, les personnes ont déjà entendu parler de Bure, ils savent déjà les enjeux, ce qui s'y passe, et une capacité de réaction en conséquence.
D'un coup, Bure est devenue une lutte à portée nationale, connue un peu plus largement, en fait.
Le bois de jus, c'est avant tout une victoire. Le bois, il est toujours là. L'occupation, elle a empêché les travaux de se faire. Ensuite, il y a eu un procès qui a mis à jour que l'Andra faisait des travaux de manière complètement illégale. Donc après la barrière humaine, il y a eu la barrière juridique qui fait que ces travaux n'ont pas pu s'effectuer. Et Landra en est là, à cette fois-ci maintenant, essayer de chercher un chemin pour revenir vers ses travaux, mais cette fois-ci en y mettant les formes. Donc il faudra sans doute trouver de nouvelles barricades à l'avenir quand elle reviendra. Une répression terrible s'est abattue sur la lutte de Bure suite à l'occupation du Bois-le-Jus, à la fois physique, des harcèlements des militants sur zone avec des contrôles à tout moment, et puis également une énorme répression judiciaire avec une assaut de malfaiteurs qui a été sortie comme ça du chapeau et qui a touché une dizaine de personnes très différentes dans le mouvement de lutte, puis aussi la fin d'une occupation, donc sur le terrain une expulsion d'un ensemble de personnes qui vivaient là pour la plupart depuis presque une année, et une lutte qui se réinvente car la lutte ne se passe plus dans le Bois-le-Jus à l'heure actuelle. Il y a eu une période un peu calme de recomposition où il y a eu énormément d'infos tours, il y a eu l'Atomic Tour, il y a eu énormément de conférences, un cycle de conférences, il y a eu beaucoup de travail avec les collectifs locaux de lutte qui se sont constitués suite à cette répression. Et dans toute cette époque, il y a eu comme une sorte de grand vent un peu libérateur qui a fait du bien à tout le monde. Ça a été une grande vague féministe qui est arrivée sur la zone. Ce sont les splendides bombes atomiques qui sont arrivées avec l'envie d'organiser un grand rassemblement en mixité choisie juste à quelques kilomètres de Bure. Et c'était énorme car depuis l'expulsion du Bois-le-Jus, il n'y avait pas eu de grande mobilisation sur zone. Voilà, ça a été une sorte de renouveau, comme à chaque fois que de nouvelles personnes s'investissent sur ce territoire.
Il faut se rendre compte que tout ce qu'on voit là, c'est aussi beaucoup de différents moments de vie dans la lutte et sur ce terrain. En fait, le campement VMC, c'était il y a des années, c'était il y a 6 ans. Et depuis, il y a eu plein d'autres histoires ici. Il y a eu plusieurs collectifs qui se sont succédés. Donc les traces de ce qu'on voit, c'est à la fois des traces de ce campement, puis des vies ensuite. Et voilà, c'est vraiment un terrain très vivant.
Suite au campement, il y a eu tout un tas de dynamiques qui se sont poursuivies à l'ancienne gare de Luméville, différents chantiers. Donc régulièrement, la gare, elle sert maintenant comme lieu d'accueil de micro-événements, des petits concerts ou des discussions. Régulièrement, des personnes y vivent aussi. C'est un lieu qui va être sûrement au cœur des préoccupations dans les années qui vont venir, car ce lieu est situé donc sur le tracé d'une voie ferrée qui à l'heure actuelle est déclassée, qui n'existe plus, mais que Landra souhaiterait réactiver pour faire le raccordement entre le réseau ferré et le projet de poubelle nucléaire. Forcément, à un moment donné, il y aura une procédure d'expropriation de ce terrain, car bien sûr, comme ce terrain appartient à des opposants, les opposants ne vont pas le vendre.
Avec une déclaration d'utilité publique qui arrive en début d'année prochaine, probablement, avec une enquête publique, avec une mobilisation contre l'enquête publique, avec déjà des avis rendus par les communes du coin qui sont plutôt pas favorables au projet, ce qui est une très bonne surprise, c'est assez incroyable. Il y a un peu un vent qui tourne, donc il y aura une virulente opposition probablement l'an prochain.
Cette DUP qui permet, donc cette déclaration d'utilité publique, qui permet d'avoir la maîtrise foncière. Dit autrement, ça lui permet d'exproprier pour obtenir les dernières terres que jusqu'alors il n'a pas encore. Bien évidemment, qu'est-ce que vont dire les gens ? Maintenant qu'on a tout, maintenant qu'on a la voie ferrée, maintenant qu'on a les routes, maintenant qu'on a le transfo de plusieurs hectares, c'est quand même plus simple de le faire là, le site d'enfouissement. Tout pourrait basculer et où tous les paysages pourraient disparaître et être ensevelis sous des travaux titanesques. C'est vraiment ce moment de remobilisation locale, mais aussi de communication au niveau national et européen. Alors à la rentrée, sûrement, est prévue une grande mobilisation, sûrement fin septembre en Lorraine.
Alors, l'éolienne, c'était peu de temps après. C'est un collectif de Redon qui était passé par la gare et qui avait trouvé ce lieu incroyable et qui avait aussi envie de faire quelque chose, parce que si eux, à l'époque, ils étaient très investis dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes, qui est juste à côté de chez eux. Et ils avaient envoyé une petite lettre qui était vraiment adorable aux personnes qui vivaient à la gare en disant « Bah voilà, nous on a vu que vous aviez un puits et on se dit que ce serait super de faire une éolienne au-dessus de ce puits. Et voilà, on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps, nous on peut tout préparer, on peut tout acheter, on va faire des rassemblements vers chez nous pour avoir l'argent et on veut bien tout monter parce qu'on sait que voilà, vous êtes dans l'occupation, etc. Mais juste, est-ce que vous êtes OK pour qu'on fasse ça pour vous ?» Et ça, ce terrain, il est truffé de ça, de tout ce tissu de solidarité et puis d'engagement de toutes ces personnes qui, à un moment donné, se disent « je veux faire un geste contre le nucléaire ».
Comment ça a émergé, l'idée vraiment, après le campement, qu'on avait appris quelque chose et du coup, on se disait « il faut qu'on transmette un peu de ce savoir appris ». La forme, c'était... On essaye de faire un bouquin qui est construit de nos contributions, comment on met en place l'électricité dans un camp, ou comment on peut faire des choix en termes d'accueil d'infos sur un point d'accueil info, comment on gère la presse, ou comment on crée les contenus, qu'est-ce qu'a été l'automédia concrètement sur un campement, qu'est-ce que c'est le soutien légal, comment on construit un soutien juridique sur un campement, on se prémunit de la répression. Des liens aussi vers les collectifs qui nous ont soutenus, donc par exemple comment prendre contact à un collectif qui permet d'avoir 400 casques audio pour avoir des traductions lors d'un campement. On s'est enfermé dans une maison de campagne dans l'ouest de la France et on s'est dit allez, on sort plus d'ici, on était une quinzaine, tous les jours on écrivait de 9h à 19h avec des pauses et tout ça, et je crois que c'est un peu ça, c'est un manuel un peu tout en kit de fait ton camp, autogéré, nous on le fera plus.
Les coulisses de la lutte est une série documentaire sonore produite par l'association Organisez-vous. L'épisode que vous venez d'entendre a été réalisé par Nariman Babaïssa. Merci à Chloé, Jean-Michel et Alix qui ont rendu la réalisation de cet épisode possible. Merci à Louise et Joël pour leur accueil, leur confiance, leur temps et leur témoignage.